Tu l'as déjà trompé ?
Non.
Et si tu l'avais fait, tu me le dirais ?
Ah non.
La tromperie ? Pourquoi est-ce si difficile d'aborder ce sujet ? Ceux qui ont trompé et ceux qui ont été trompés ont décidé de dévoiler leur vérité. Ils partagent avec vous leur expérience, leurs regrets et leurs espoirs. En douce vous propose de les écouter, car la tromperie, malgré la douleur qu'elle provoque, ne marque pas la fin de l'histoire. Découvrons ensemble ces récits douloureux qui nous aident à comprendre, à grandir et à se reconstruire.
J'ai l'impression qu'on a toutes vécu ce genre de situation et que les red flags, s'ils sont là, c'est qu'il faut les prendre, faut les écouter, faut se faire confiance.
On dit souvent que l'amour rend aveugle. Le témoignage d'aujourd'hui nous montre qu'il bouleverse, déstabilise, détruit tant le corps que l'esprit.
Le retour à la confiance en soi s'impose. Se reconstruire, trouver un équilibre et ainsi vaincre ses démons.
Partons en douce.
Alors, je m'appelle Marion, j'ai 37 ans, je vis à La Rochelle, je suis auxiliaire péricultrice, j'ai une famille avec un petit frère, nos parents sont divorcés depuis que j'ai l'âge de 25 ans, donc plutôt schéma familial classique jusqu'à mes 25 ans, enfance heureuse, épanouie, parents présents. Et puis le divorce, j'avais l'âge adulte, donc ça s'est fait en douceur, on va dire. Ma première relation amoureuse, c'était au lycée, où je suis restée quand même plusieurs années, donc avec mon premier amour. Première relation intime, ça a duré 3 ans. Et puis ensuite, quand j'ai commencé mes études, plusieurs rencontres. Et pas que des belles rencontres, souvent des hommes pas très honnêtes, francs, voilà, où j'ai pas mal souffert quand même.
Comprendre avant de juger. En douce, le podcast sur l'infidélité de Radio Collège.
J'avais 24 ans, il est venu me parler sur Instagram à l'époque, on avait dû se croiser en soirée. Beau garçon, un peu beau parleur. Voilà, tout de suite, forcément, j'ai accroché. On s'est vu, coup de cœur pour tous les deux. Et de là, on est resté à peu près 4-5 ans ensemble. Tout a été très vite, tout a été ultra rapide. Lui, il était un petit peu plus jeune que moi. Donc, on a emménagé très vite ensemble. J'ai fait confiance parce que pour moi, c'était... 24 ans, 25 ans, l'homme de ma vie. Il ne faut pas oublier que cette période-là, mes parents venaient juste de divorcer aussi. Donc, je pense que je me suis un peu confortée dans cette relation pour ne pas être toute seule et de me prouver que l'amour, c'est chouette, c'est beau. Et voilà. La première fois qu'on a fait l'amour, tout de suite, on s'est dit « je t'aime ». Enfin, voilà, c'était très romantique, voilà. Et de là, je me suis dit, mais c'est évident, c'est l'homme de ma vie, il est un peu fleur bleue, il fait viril, enfin, il est beau, enfin voilà, il y avait toutes les qualités que j'attendais d'un homme, quoi. Et puis en même temps, je ne m'attendais pas trop à cette rencontre non plus, donc voilà. Pour moi, c'était hyper important. Alors, je me souviens que c'était notre première relation intime, où c'était assez romantique, où il m'a dit « je t'aime ». En me regardant dans les yeux, voilà. Donc je me suis dit, c'est ça y est, c'est lui, l'homme de ma vie. Il a toutes les qualités, tout ce que j'ai toujours rêvé. Voilà. Notre quotidien. Moi, à cette époque-là, je travaillais. Lui, il était sportif, donc c'était son gagne-pain. Donc notre quotidien, c'était rythmé par ses matchs, par ses entraînements et moi, mon travail. Donc c'était beaucoup en fonction de lui. Et puis, donc cette première année, on l'a vécu sur La Rochelle. Et ensuite, on a déménagé, je l'ai suivi. J'ai toujours tout fait en fonction de lui. J'ai quitté mon travail, on a changé de ville, j'ai dû trouver un nouveau travail, nouveau logement. Et puis on a recommencé l'année d'après, où on a redéménagé, où il a changé de club, voilà. Donc notre quotidien, c'était de toujours... on se posait jamais. Et toujours des nouvelles personnes, toujours lui jamais là le week-end, rarement là la journée puisqu'il avait entraînement. Moi, je travaillais. Voilà, à peu près notre vie.
En douce, le podcast de Radio Collège qui nous parle d'infidélité.
Par rapport à sa personnalité, ce que j'ai pu percevoir, c'était quelqu'un d'assez tactile. Il était assez câlin, à dire facilement qu'il m'aimait, assez prévenant aussi. Toujours une petite surprise, un petit cadeau, très attentionné. Donc moi ça me rendait heureuse forcément, j'étais contente parce que je me disais qu'il pensait à moi et que s'il le faisait c'est qu'il c'était sincère et qu'il m'aimait. Donc voilà, il n'y avait pas trop de signes que j'ai pu percevoir en me disant il y a une brèche, enfin jamais. Alors finalement au bout on va dire allez de 2-3 ans de relation, il y a eu des petits signes. Premier red flag, ça a été j'ai reçu un message anonyme sur Messenger d'une fille qui me disait que pendant ses vacances avec ses copains, il m'avait trompé avec elle, etc. Donc, ok, j'ai lu le message. Je me suis dit, c'est pas possible, elle invente, c'est pas possible à cette période-là. Voilà, j'ai tout retracé dans ma tête. En me disant non, c'est elle qui ment, et voilà. Évidemment, je lui en parle. Évidemment, il me dit que c'est faux. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je le crois parce que je suis folle amoureuse. Et puis la vie continue, et jusqu'au prochain red flag à nouveau, où je découvre des messages dans son téléphone. Alors, peut-être parce que j'étais un petit peu plus méfiante depuis cette histoire-là. Et là, en l'occurrence, je vois des échanges avec une fille. Mais elle, si je puis dire, elle le rembarrait. Elle savait qu'il était en couple. Donc pour elle, il n'était pas question qu'il se passe quoi que ce soit. Mais le pire, c'est que lui, plus elle disait non, et plus il y allait. Donc de lire ça, c'est très dur. Surtout qu'on vivait ensemble, qu'on avait des projets. Donc je lui en parle. Il me dit que c'est pas vrai, que c'est faux, que c'était pour un copain, qu'il voulait voir si elle était célibataire, voilà. Donc, sur le moment, je le crois à moitié, et puis je finis par le croire tout court. Je pense que la première fois, vraiment, je l'ai cru, mais je me suis dit, Marion, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, reste vigilante. Jusqu'à... ces fameux messages avec cette deuxième fille, donc ça s'est passé, on va dire, peut-être un an après, même pas. Où là, je me suis dit, ça recommence, c'est quand même pas anodin. Mais vraiment, j'étais tellement amoureuse et je me suis dit, il en est tellement incapable. Pour moi, c'était pas possible. C'était. Ouais, il me disait vrai que c'était par rapport. À ses copains, qu'il voulait que son copain se mette en couple, donc du coup il avait dragué cette fille pour lui. Enfin, franchement, je pense que j'avalais un peu toutes les couleuvres qu'il voulait me faire avaler. Mais au fond de moi, j'avais ce petit truc de me dire méfie-toi, il est dans un milieu sportif où on sait que les filles sont ultra présentes et que je voyais bien ses amis, comment ses copains de ce sport, comment réagissaient alors qu'ils étaient en couple. Donc voilà, je me méfiais, mais j'étais tellement amoureuse et j'étais tellement persuadée que lui aussi, que je continuais, tout simplement. Je faisais confiance.
En douce, le podcast de Radio Collège qui nous parle d'infidélité.
Alors le sujet de la fidélité, oui, on l'avait abordé parce qu'effectivement, il avait des copains qui ne se privaient pas de rencontrer d'autres filles. D'ailleurs, en ma présence, ça pouvait être une sortie dans un bar, en boîte de nuit, à travers tous les clubs qu'il a fait, toutes les villes où on a déménagé, c'était toujours le même schéma en fait. Donc voilà, je lui disais mais ça te choque pas ce genre de comportement alors qu'on connaît leurs femmes, qui certains ont des enfants ou vont être papa. Il me disait bah si, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, enfin c'est leur vie. Je dis oui, mais c'est la fidélité. Enfin, moi, je la tolère pas et j'ose espérer que toi et moi, ça se produise pas. Il me disait mais non, mais t'inquiète pas, c'est moi, c'est pas pareil. Voilà, il me rassurait à sa façon en me disant que oui, c'est vrai que ses copains, ils faisaient pas toujours les bons choix, mais que fallait pas qu'on s'en mêle et voilà. Mais moi, je le vivais hyper mal de voir ça et deux jours après de côtoyer ces gens-là en me disant la pauvre, elle a été trompée, c'est juste horrible. Enfin, j'ai plein d'anecdotes hein, à ce sujet, plein de soirées. Et voilà, non, pour lui, il n'était pas comme ça et c'était la vie de ses copains et c'était pas lui. Donc bah, une fois de plus, je me disais mais oh, il est génial. Enfin, c'est vraiment, il a toutes les qualités, il est unique quoi, vraiment. La découverte des infidélités, peu de temps après cette deuxième fille. Alors, faut savoir, j'ai peut-être oublié un élément important. On s'est séparés une première fois, quelques mois après la découverte des messages avec cette deuxième fille, où il m'a quitté lâchement, par message. Lui, il avait signé dans le sud de la France un nouveau contrat. Il l'a fait à distance alors qu'on vivait ensemble, soi-disant qu'il m'aimait plus, que voilà, il avait envie de changer de vie. La petite histoire, c'est qu'entre-temps, il est sorti avec cette fille en lui disant qu'on n'était plus ensemble. Donc leur relation a duré un mois et ensuite il est revenu vers moi. Donc de là, j'ai craqué, j'ai accepté ses excuses, on s'est remis ensemble. Ça a duré un an où lui était dans le sud. Et moi, j'avais repris mes études, donc j'étais restée sur La Rochelle. Et c'est là que les infidélités ont commencé, concrètement. Et j'ai découvert ça, voilà, au bout d'un an, sur un truc tout bête. J'avais prêté à l'époque mon iPad et il avait synchronisé son téléphone avec ma tablette. Et un jour, j'ai voulu me connecter. Et donc, c'est là que je suis tombée des nues, où j'avais une dizaine de messages de filles différentes. Alors, ça allait... De la fille qui se déshabillait, qui se prenait en photo et qui lui envoyait, à la fille qui l'avait embrassée en soirée ou à la fille avec qui il m'a trompée. Voilà. Après cette découverte, mon premier réflexe, ça a été d'appeler sa mère. Il faut savoir que moi, je l'avais rejoint. J'avais emménagé avec lui. J'avais trouvé un nouveau boulot que je devais commencer une semaine après. Et j'étais très proche de mon ex-belle-mère. Et voilà, donc je l'ai appelée et je lui ai dit, voilà, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, aidez-moi. Moi, je ne connaissais personne, j'étais à 700 km de chez moi. Ça a été vraiment une personne ressource pour moi. Donc elle est venue me voir, on a beaucoup discuté. Évidemment, elle était déçue du comportement de son fils. Il faut savoir que lui, dans son schéma familial, son père avait trompé sa mère aussi, donc elle pouvait que comprendre ce que je traversais. Et elle m'a dit bah, protège-toi en fait, ne fais plus les choses en fonction de lui, fais les choses pour toi, si tu veux partir tu pars et je t'aiderai. Donc cette journée-là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai attendu qu'il rentre du boulot, je lui en ai parlé. Il a pas nié, il a pas dit la vérité non plus, il a beaucoup pleuré. Donc il était incapable de me dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a passé notre soirée l'un à côté de l'autre. Lui a pleuré. Moi je pense même pas, j'ai pas le souvenir d'avoir pleuré. J'étais tellement en colère en fait, tellement... où je me suis dit mais Marion, t'as été bête en fait pendant ces dernières années. Tu as cru et il y avait plein de ces fameux red flags qui étaient présents. Il est parti prendre l'air un quart d'heure, 20 minutes. Il est revenu. Et il pleurait toujours. Et on s'est couché chacun de notre côté. J'ai fait mes bagages et le lendemain matin, je suis partie. Quand je suis partie, il avait glissé une lettre de plusieurs pages dans ma valise. Et il a quand même réussi à me glisser deux, trois mots en me disant qu'il était désolé, qu'il était perdu, qui voulait pas me faire de mal, que c'était pas sa volonté, voilà, qu'effectivement il m'avait trompée avec cette fille. Moi, j'ai pris ma voiture, j'ai refait les 700 km, j'ai lu sa lettre. Et en fait, sa lettre, ouais, il s'excusait, il regrettait que je méritais pas ça, qu'il était paumé. Moi, c'était bizarre. J'étais déterminée vraiment à me dire, c'est fini. Notre histoire, elle est terminée. Il n'aura pas d'autre seconde chance. Et ça s'est fini comme ça. Moi, entre-temps, j'avais appelé cette fille quand même pour avoir sa version des faits. Et là, c'était... j'étais tellement choquée de tout ce qu'il avait fait avec elle. Et la tromperie, il faut savoir que c'était un week-end où il remontait sur La Rochelle, où il s'est arrêté chez cette fille qui habitait à Toulouse. Et que le lendemain soir, il était chez moi, avec ma famille, et qu'il avait inventé une histoire comme quoi il s'est arrêté chez un copain à Toulouse. En fait, c'était pas un copain, c'était une copine. Et voilà, il a fait semblant avec moi après. Donc ça, c'était hyper dur à accepter. Et elle a voulu m'appeler pour me dire la vérité, parce qu'elle était persuadée qu'on n'était plus ensemble. Et sauf que j'étais en plein examen à cette période-là et qu'il lui avait dit quand même « Non, ne fais pas ça. Elle passe son diplôme de fin d'année, donc c'est pas le moment. » Donc évidemment que quand je l'ai eu au téléphone, après tout ça, pour moi, c'était juste pas possible. Il m'avait trahi moi, mais il avait trahi ma famille, de qui il était très proche aussi, sa famille aussi. Et là, il n'y avait pas de retour possible, pour moi en tout cas. Si tu veux, elle est tombée amoureuse de lui. Il lui avait fait soi-disant des promesses. Et ses amis à elle lui ont dit « Attends, l'histoire elle est hyper louche. Le mec, tu le vois une fois. Il dit qu'il n'est plus avec sa copine, ça fait des années qu'ils étaient ensemble. Il ne donne plus de nouvelles. Il essayait de lui dire « Non mais attends, là c'est pas le moment. » Enfin, il l'évitait en fait. Donc c'est plutôt ses amis à elle qui lui ont dit « Ne fais pas ça, ne l'appelle pas, c'est leur vie, il y a quelque chose qui cloche et ne t'en mêle pas en fait pour la protéger elle. » Et elle, quand elle a vraiment découvert, elle avait un peu fouiné sur les réseaux sociaux, etc. Et elle avait vu qu'on était encore ensemble en fait. Et donc du coup, bah, elle s'est fait toute petite et elle n'a pas souhaité me contacter. Donc entre le temps où il s'est passé, ce qui s'est passé entre elle et lui, il s'est passé 2 mois en fait, à peu près. Et c'est moi au bout de 2 mois qui l'ai contactée. Où là, elle m'a dit toute la vérité. Et voilà. Donc je savais qu'elle disait vrai. Elle n'avait aucune raison de me mentir en fait. Sachant qu'elle n'avait plus de ses nouvelles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'il y a eu d'autres filles. Ou ces autres filles, clairement, j'avais pas envie de toutes les appeler pour savoir ce qui s'était passé. On a beaucoup échangé par mail. Je lui ai demandé, clairement, raconte-moi tout. Je veux tout savoir avec toutes les filles. Il l'a fait. Alors peut-être à sa façon, hein, je sais pas si ça sera sa vérité à lui. Mais en tout cas, oui, en me disant « Mais non, mais elle, c'était juste en soirée, on s'est juste embrassé. Elle, c'est juste des photos. Elle, oui, il s'est passé quelque chose. Il l'a fait. » Et ça a duré 2 mois, où on a échangé par mail, jusqu'au jour où je me dis « Il me cache quelque chose encore de plus fou qu'une tromperie. » Et là, je lui dis « Écoute, je suis sûre que tu t'es remis en couple peu de temps après que je t'ai quittée avec cette fille qui s'appelle comme ça, qui vit ici. » Et là, il m'a dit « Mais comment tu sais ?» Il dit « Je voulais pas t'en parler parce que notre rupture est encore récente et je sais pas ce que ça va donner avec elle. » Et je lui ai dit « Bah, tu t'es trahi toi-même, en fait, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou sur les mails que tu m'as envoyés. » Et cette fille, alors ça a toujours été un sujet délicat parce que là, il ne m'a pas dit la vérité. Et je pense qu'il la voyait déjà quand on était ensemble. Une fois qu'on s'est séparés, il l'a fait connaître à nos amis. Et clairement, elle croyait qu'on n'était plus ensemble. Il y a eu plusieurs paroles de sa part où elle disait « Mais non, mais il n'était plus avec Marion, c'est pas possible. » Ou nos amis en commun ont dit « Mais si, à cette période-là, il était encore avec. » Et elle est tombée des nues. Tu vas me dire « Est-ce que tu l'as appelée, elle ?» Non, j'ai jamais souhaité rentrer en contact avec elle parce qu'après tout, je me suis dit « C'est leur histoire. » Moi, c'est terminé. Et chacun son histoire, en fait. Et j'avais besoin de me protéger et d'avancer. Et voilà. Mais ça, c'est une certitude que j'ai en moi où il était déjà avec elle sur la fin de notre histoire. J'aurais aimé avoir une preuve de ça. Et ça a été très difficile à vivre. Franchement, pendant plusieurs années, ça m'a détruite. J'ai perdu confiance en moi. Et ouais, j'aurais aimé plus de vérité de sa part à lui. Elle, je pense qu'il lui a dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Donc, je me dis, en vrai, je me dis la pauvre. Mais lui, il me disait ce qu'il avait envie de me dire. Et je sais qu'il a fait la même chose avec elle, en fait. Donc, mais ouais, pendant des années, ça m'a beaucoup travaillé.
En douce, le podcast de Radio Collège qui nous parle d'infidélité.
Alors je me suis reconstruite vraiment petit à petit. Ça a mis des années. Faut savoir déjà que quand j'étais avec lui, j'avais pris énormément de poids. Et quand je me suis séparée de lui, j'en ai pris encore plus. Donc la reconstruction, elle a été en plusieurs étapes. Il a fallu que je fasse mon deuil de ma vie de couple avec lui. Et il a fallu aussi, d'un côté, que je m'accepte telle que j'étais. Et j'étais malheureuse d'avoir perdu cet amour. Et malheureuse physiquement d'être devenue une personne qui ne me ressemblait pas. Donc les deux étaient liés. Et ça a été encore plus dur. Je me suis reconstruite grâce à ma famille, mes amis. J'ai été ultra, ultra entourée. Et je me suis laissée porter par toutes ces personnes, tous ces proches. Je pense que je n'aurais jamais réussi sans eux. Le travail aussi, j'étais jeune diplômée en tant qu'auxiliaire puéricultrice. Donc j'ai souhaité trouver du travail tout de suite. J'ai signé mes premiers contrats. Donc j'ai énormément travaillé. Je me suis construite comme ça, je suis retournée vivre chez mon papa, parce que j'avais plus de logement du coup. Et le fait d'être entourée, de reprendre la danse, de sortir un petit peu, tout ça, ça a fait que je me suis remise petit à petit. Ensuite, j'ai eu une tendance quand même de grosses déprimes aussi, où les moments où je me retrouvais seule chez moi, ça a été hyper compliqué. Et puis jusqu'au jour où j'ai eu mon chez moi, je suis partie de chez mon père, j'ai eu un vrai contrat de travail. Et là, j'ai commencé à me sentir mieux, à vivre pour moi. C'est pas pour autant que je faisais des rencontres. Vraiment, je suis restée célibataire pas mal de temps. Ça se compte en années. Et jusqu'au jour où j'emménage donc dans une résidence où ma voisine de palier, d'au-dessus, ce n'est autre que cette seconde fille avec qui il avait envoyé des messages. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ça me poursuit. Enfin, vraiment, c'est la dernière personne que j'avais envie de voir. Le moment où tu te sens un petit peu mieux, où tu te reconstruis, et ben non. Donc évidemment, on savait toutes les deux qu'on vivait au même endroit. Elle a souhaité me parler. J'ai accepté. Je me suis dit, écoute, après tout, c'est de l'histoire ancienne. Peut-être qu'elle a des choses à vider et à dire. Il y a peut-être sa version des faits aussi. À notre grande surprise, à toutes les deux, ça s'est très bien passé. On s'est écouté l'une et l'autre. Et puis, moi, ça m'a permis d'en savoir plus. Et à la fois, ça m'a réconfortée dans mes choix. Et de me dire que cette personne n'était pas faite pour moi et que j'ai bien fait de fuir et de recommencer une nouvelle vie.
En douce, sur Radio Collège.
Tout ce poids, toutes ces, enfin, ces émotions entre guillemets que j'ai mangées pour me sevrer de cette relation, ce poids, ça a engendré la dépression en fait. C'est ça qui a fait que, je sais pas si tu vois...
Le fait que t'aies absorbé autant d'émotions.
Ouais. Quand je me suis séparée de lui, j'ai continué à grossir, à prendre du poids. Et c'était un peu ma carapace, en fait, pour me protéger. Et ok, j'avais fait mon deuil de cette relation. Mais ensuite, le fait de prendre... Ouais, j'ai pris entre 40 et 50 kilos. J'ai fait une grosse dépression. Qui a été diagnostiquée on va dire un an après, où là j'ai tout lâché, j'ai été arrêtée pendant 5 mois. J'ai fait un gros suivi avec des thérapeutes où je me suis dit, là Marion, c'est plus possible, tu peux plus continuer comme ça, tu peux plus manger comme tu le fais, tu peux plus te cacher en fait. Il faut savoir que du coup, le fait d'avoir pris du poids, je refusais de rencontrer qui que ce soit. Je ne voulais pas d'homme dans ma vie. J'avais honte de cette situation. J'avais honte de moi. Et ça a duré un an. J'ai repris le travail petit à petit en mi-temps thérapeutique. Et grâce aux médecins, grâce aux psychologues, j'ai perdu ces 50 kilos. Je me suis fait opérer. Voilà, j'ai pris des grosses décisions dans ma vie parce que j'avais la certitude que... En fait, j'avais pas le temps d'attendre, j'avais pas le temps de me dire « je vais perdre du poids, ça va durer 3 ans, 4 ans ». Au début, les médecins, c'est ce qu'ils m'avaient dit. « Vous allez réussir, mais ça va mettre longtemps ». Non, j'avais pas le temps, j'avais plus de 30 ans. Je me suis dit « c'est maintenant ou jamais ». Donc pour une fois, je me suis fait confiance et ça a fonctionné. Et bah, tout ce poids qui est parti, je me suis encore reconstruite à nouveau. Et franchement, s'il y a un truc dont je suis fière, c'est ça. C'est d'avoir osé le changement et de m'être écoutée. Et bizarrement, quand il y a 50 kilos qui s'envolent, il y a toutes ces émotions, toutes ces énergies négatives et ce passé. Qui disparaît aussi en même temps. C'est comme si on avait appuyé sur reset en fait. Ce reset, il m'a permis d'aller de l'avant, de rencontrer des hommes, parce que j'avais besoin de prendre confiance en moi, de séduire aussi. Et très honnêtement, les hommes que j'ai rencontrés, non, il n'y a pas eu de red flag. Parce que déjà j'étais dans une optique de m'amuser, enfin de prendre du bon temps et de pas forcément engager quelque chose de sérieux. Et la seule fois où j'ai voulu me dire « Marion, t'es prête, tu vas rencontrer quelqu'un », je me suis dit « Ah ouais, lui, il coche toutes les cases, c'est ok ». Mais en fait, non, c'était pas du tout ok, c'était pas du tout quelqu'un de fait pour moi. Et je m'en suis rendu compte, je prenais le temps en fait. Jusqu'au jour où je rencontre le mec avec qui je suis actuellement et je ne pensais pas du tout que lui et moi, un jour, ça pourrait le faire. Là, je me laisse porter par les choses. J'arrête de me mettre des objectifs dans un couple. On évolue, on a chacun de nos histoires. Et voilà, j'ai envie de prendre le temps et je trouve que plus une histoire amoureuse est spontanée et mieux elle fonctionne, en fait.
Donc on peut dire que tu es heureuse ?
On peut dire que je suis heureuse. J'ai l'impression qu'on a toutes vécu ce genre de situation et que les red flags, s'ils sont là, c'est qu'il faut les prendre, faut les écouter, faut se faire confiance. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Et aujourd'hui, j'ai la maturité pour me dire « Attention, là, il y a une brèche, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et c'est les expériences qui font. Donc aujourd'hui, je remercie mon ex quelque part de tout ça. Parce que la femme que je suis aujourd'hui, elle a compris des choses. Et aujourd'hui, je me suis construite grâce... c'est pas à cause de tout ça. C'est quand même grâce à tout ça. et je me sens beaucoup plus apaisée et moins torturée, moins jalouse, vraiment mieux. Donc ouais, faut plus s'écouter et faire attention à nous, parce que je pense qu'on a un bon instinct quand même.
En douce, un programme de Radio Collège préparé et présenté par Joe et Mathilde. Retrouvez le podcast sur nos réseaux et le site web de la radio. Et envoyez-nous vos commentaires et réactions sur endouce@radiocollège.fr. À bientôt pour un nouveau numéro.
Radio Collège, une autre idée de la radio.
De France ou d'ailleurs, c'est pour vous ça. Ah. Big up, big up, big up,
big up, big up, big up, big up, big up, big up, à toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up, à toutes celles qui se sont sœurs. La vie est courte et tu le sais, pas le temps de prendre de pause, non. Vas-y, pense et pense à ta vie.
Y'a des matins tu te lèves, t'as des envies de bénéfice, des envies de pèse, t'as des envies de rêve, t'as envie de goûter à ses lèvres. Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire. Et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nerf. T'as la patate ma sœur, parce que t'es belle et que t'es pas conne. Tu te respectes, tu le sais, t'es la patronne.
Bah ouais.
T'es archi bien, t'es une boulette, t'es une fusée. T'étais une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser. Ces matins là tu peux les vivre si tu regardes. Combien le monde se dégrade, combien les gens sont devenus barges. Combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule. Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves, ma belle. Moi aussi je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute. Parfois les hommes me dégoûtent, mais je tiens debout ma sœur. On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger. Avec le cœur, les dents qui raillent le plancher.
Big up, big up, big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. À toutes celles qui se sont sœurs. La vie est courte et tu le sais.
Tu te lèves, t'as des envies de pourrir, des envies de vivre, des envies de courir, des envies de dire au monde que t'as le sourire. Ma sœur, t'as des galères graves, mais t'as la patate, ouais t'as la banane grave. Et pas question que tu te ramasses, ma belle. T'as trop la pêche, tu vois que le monde court à sa perte. Alors t'es trop opé, t'es trop pas prête à céder devant la merde.
Bah non,
t'as des épaules, t'as du charisme et t'as du goût. T'es une vraie pro, tu parles d'arrives, tu sors des griffes s'il y a des loups.
Bah ouais.
On n'a pas toutes de bons pères, on n'a pas toutes de grands frères. On n'a pas toutes eu la chance d'être nés sous la même étoile. On n'est pas toutes en bon terme, mais on rêve toutes d'être bonnes mères. On rêve d'être femmes. Mon rêve d'être brave et sur la bonne voie.
Oh. Big up, big up, big up, big up,
big up.
À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up,
oh.
Big up.
Oh.
À toutes celles qui se sont sœurs. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre de pause,
non.
Vas-y, pense et pense à ta vie.
Y'a des matins tu te lèves, t'as des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang.
Big up.
Ces matins-là, t'es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère et tu rêvasses dans le métro.
Big up.
Tu vas au taf ou à l'école, tu rêves de te casser avec tes potes, de tracer avec ton homme loin de la métropole.
Big up.
Et si t'es seule, t'es la reine des célibataires, t'as plus les pieds sur terre, ils sont tous à tes bottes quand tu t'apprêtes.
Big up.
C'est pour mes sœurs qui se démerdent pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non, on s'en fout que tu sois fine ou ronde.
Big up.
C'est pour toutes celles qui nous représentent, grande gueule ou petit cœur, petite timide, petite Kaira, petite sœur.
Big up.
C'est pour toutes celles qui croquent leur life, qui croquent leur mal, qui fuck tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui jappent.
Big up.
À toutes mes sœurs, toutes sans exception, vas-y va chercher le mot, boum boum, mets-leur la pression.
Big up, big up, big up, big up.
Big up.
Qui se sent seuls. La vie est courte et tu le sais. T'as pas le temps de prendre de pause, non. Vas-y, pense et pense à ta vie.
Ok, amen. China, Vita, Melissa, Nina. C'est la chorale de l'an 2000, ça. Un gros big up à toutes mes sœurs. C'est pas tous les jours facile, je le sais. Donc big up à toi ma sœur. T'es une boulette, t'es une fusée, t'inquiète. T'es une petite zoulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser ma sœur. On va pas se laisser faire non. Non non.